Donc on passe à la suite. Et à Camille qui est là depuis le début. Bonjour Camille.
Bonjour, j'ai chaud.
Et donc, Camille de Axel Mag, magazine.
Oui.
Alors, explique-nous un peu d'abord ce que c'est Axel. On dit magazine ou mag? Mag, c'est plus court.
On dit magazine.
Magazine. Axel Magazine. Parce que voilà, je ne sais pas si dans le public, là, tout le monde connaît Axel Magazine. Je vois des noms. Ah, je vois un oui. Voilà, bah, explique-nous peut-être d'abord ce que c'est.
Oui. Donc, c'est un magazine féministe qui est édité par une ASBL féministe qui s'appelle Vie Féminine. Et qui donc donne la parole à des journalistes indépendantes qui sont aussi féministes. Et donc, on traite l'actualité d'un point de vue féministe.
Il n'y a rien que des femmes.
Il y a quelques hommes. Donc, les hommes sont bienvenus, mais c'est essentiellement des femmes qui écrivent dans Axel. Oui.
Et alors, tu n'as pas peur d'utiliser le mot féministe, toi?
Non. Moi, je suis féministe, je suis journaliste féministe et je n'ai pas peur d'utiliser le mot.
Est-ce que déjà, le terme féministe, on a l'impression qu'il y a encore quelques années, c'était un gros mot presque. Sur la phrase que tu viens de dire, sur c'est quoi une féministe finalement à l'heure d'aujourd'hui, hein, on va pas revenir en 71 le MLF, sinon je vais me mettre à chanter l'hymne du MLF comme très je fais tous les jours depuis mardi.
Un très beau morceau.
Ah bon, on l'a pas celui-là, c'est... bon bref. Vas-y. Non, pas pour le chanter. Hein,
Non. Mais c'est très difficile, je pense qu'il y a des féminismes, donc du coup avoir une définition claire du féminisme, c'est difficile. Pour moi, c'est vraiment lié à la libération...
Je te vois mieux.
La libération des femmes, de tous les obstacles qui sont autour d'elles, tout ce qui les empêche d'être des sujets, à part entière. Et oui, c'est ça pour moi. Alors, ma définition très personnelle, c'est aussi tout ce qui m'est arrivé à moi. Je n'ai pas envie que ça arrive aux petites filles qui naissent aujourd'hui. Et donc, ça, c'est vraiment lié à des choses très personnelles qui me sont arrivées parce que je suis une femme. Liée au sexisme, au patriarcat de la société, et je n'ai pas envie que ça continue comme ça. Donc c'est vraiment une activité militante et activiste, mais ça c'est très personnel, je pense que pas mal de féministes ne diraient pas ça, par exemple.
Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que je pense que toutes les femmes à un moment se disent, il y en a marre, je sors dans la rue, moi j'habite Bruxelles, je sais pas si à Fleurèf ce serait la même chose, mais habitant Bruxelles, quand je sors de chez moi, bah, c'est vrai qu'on est quand même toujours... Aux aguets, on est toujours sur sur une certaine attention, en fait. Quand on va croiser quelqu'un, il y a toujours une sorte de suspicion quand on n'entendait pas derrière. Enfin, on n'est jamais, en fait, libre dans sa tête, finalement. Et après, on a envie de dire... déjà, expliquer ça aux hommes. Je ne sais pas si tu peux te rendre compte, toi, Guillaume, du fait de marcher pas la tête libre, en fait. Hein? On lui a coupé le micro. Voilà.
Mais moi, je peux m'en rendre compte. Je peux me rendre compte que je m'en rendais pas compte. Et je peux m'en rendre compte quand je tiens la main de mon copain dans la rue.
Oui.
Voilà. Tu parlais à un homme, je suis un homme aussi, mais avec cette petite précision-là. Effectivement, c'est pas tout à fait la tête libre tous les jours non plus, quoi.
Ah, tu fais pas donc partie de l'homme blanc privilégié
Ben, si, aussi.
Oui, aussi, mais voilà.
Ben, on s'est demandé hier, on s'est demandé si je faisais pas partie des dominants dans ma sphère minoritaire, comme ça. Mm. Ouais, les gays blancs, cisgenres, comme on dit, dans tous les LGBTQI, ben, c'est les plus visibles.
Mm. Ouais.
C'est quand même une drôle de question aussi, de se dire en même temps... En même temps, je suis dominé, en même temps, je suis dominant.
Oui. Mais c'est vrai que oui, les lesbiennes, par exemple, ont beaucoup essayé de parler de ça, de leur invisibilisation aussi dans le mouvement qu'on a appelé le mouvement gay pendant longtemps. Donc, du coup, déjà, c'était pas simple pour elles. Ouais.
Voilà, donc il y a Achaïso qui nous a rejoint, qui fait des photos, alors là, c'est le canif suisse de Radio Esperanza.
Voilà, tout à fait. Merci de m'avoir attendu.
Déborah, écoute, avec grand plaisir.
Camille.
Bonjour.
Et monsieur.
Et Guillaume.
Guillaume, voilà. Oui. Alors, merci aussi à 48FM de nous recevoir. Alors, justement, pour continuer dans la lignée de ce que Axel Mag propose et défend, surtout dans son magazine et sur ses publications web, récemment, il y a une histoire qui est sortie, à propos de Zakia Katabi. Donc, coprésidente du parti écolo et qui s'est retirée de la twittosphère suite à des remarques hyper virulentes sur le fait qu'elle ait appuyé justement qu'on puisse porter le voile dans l'enseignement de promotion sociale à Bruxelles. Donc c'est
et l'enseignement supérieur. Hein.
Et l'enseignement supérieur, mais pas tous reconnus par la COCOF. Donc l'environnement hyper restreint, c'est Bruxelles, et elle a eu une déferlante de haine. Alors la question est la suivante, est-ce que cette déferlante de haine, elle a finalement eu parce qu'elle s'appelle Katabi, ou parce que c'est une femme, ou juste parce qu'effectivement la société belge n'est pas encore prête à donner les mêmes privilèges à tout le monde, c'est-à-dire pouvoir assumer pleinement ses choix religieux?
Je pense que c'est un peu des trois. Je pense qu'on parlait de l'espace public là tantôt. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, c'est un espace public. Et il y a encore cette dichotomie, le privé aux femmes et le public. Les hommes, en tout cas, ils sont plus à l'aise. Ils ont plus l'habitude d'y être, prendre la parole en public, être dans l'espace médiatique. Tout ça, c'est beaucoup plus simple. C'est un privilège pour les hommes. Donc c'est un privilège masculin. Et donc, du coup... Je pense qu'être une femme sur les réseaux sociaux, c'est, et en plus une femme qui l'ouvre, une femme qui parle, une femme qui a des positions, donc ça arrive pour les femmes politiques, pour les féministes, pour les journalistes. Il y a beaucoup de femmes journalistes, beaucoup de féministes qui se font cyberharceler et qui ont des, voilà, des menaces de mort, des menaces de viol, ça va très très loin, parce que c'est encore dérangeant d'avoir des femmes qui ont des positions fortes et claires dans un espace public. A priori, voilà, elle dérange en fait d'être là. Et donc, je pense, en plus, quand on est une femme d'origine étrangère, on a des obstacles qui s'ajoutent. Et le fait, malheureusement, d'être d'origine étrangère et d'être une femme, c'est une double peine dans un espace public qui est majoritairement masculin et blanc. Donc tout ça fait qu'effectivement, je comprends qu'elle puisse décider de se protéger et de décider de couper tout et de ne plus y être. C'est malheureux parce qu'on perd, on perd une voix. Mais il faut se protéger aussi parce que ça peut aller très loin. Et on a encore vu aussi une journaliste du Vif qui a été harcelée sur Twitter, et c'était très 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 violent, avec de nouveaux menaces de viol, menaces de mort. Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de schizophrénie, parce que Écolo a quand même remporté haut la main les élections récemment, et communales en octobre et régionales en mai. Elle est coprésidente de ce parti que tout le monde plébiscite. Elle représente justement cette diversité qui brise le plafond de verre, et boum, elle prend une décision et on la lynche. Donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte de schizophrénie populaire aussi? On veut bien, mais pas trop en fait.
Oui, hein, peut-être.
Des,
oui.
Des profils comme le sien à la tête de parti importants, mm-hmm. Même pas trop, parce que sinon ça ne va plus.
Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a... La carrière politique est aussi très difficile pour les femmes. Il y a des femmes qui arrêtent parce qu'elles, voilà, elles ont. Il y a plein de choses en fait. On les ramène aussi souvent à leur maternité. Enfin, c'est pas les mêmes attaques. Les hommes politiques peuvent aussi être attaqués, mais ils vont être vraiment attaqués sur leur politique. Les femmes, on l'a vu avec Joëlle Milquet, ça va être sur leurs enfants. Il va y avoir des caricatures comme quoi elles sont pas des bonnes mères. Donc il y a encore des choses plus difficiles pour les femmes. Et donc oui, effectivement, à la tête d'un grand parti, en plus avec cette chose intéressante d'avoir une coprésidence qui est mixte, donc un homme et une femme, qui est une idée vraiment super, super intéressante. Donc oui, c'est vraiment, effectivement, c'est très dommage.
C'est très dommage. Alors, voilà, ici on est à Esperanza. La thématique de l'année, c'est « Démasquons nos privilèges ». On voit cette affaire qui arrive, on a parlé de plein d'autres sujets ces quelques derniers jours, sur le privilège d'être un homme ou d'être une femme blanche ou d'être tout simplement ici, qui qu'on soit et peu importe la couleur de peau. Quand on voit ce genre de situation, donc celle de Zakia Katabi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait nous en tant que citoyens, en tant que femmes qui se sentent représentées par ce qu'elle est tout simplement, pour soutenir et puis pour éduquer notre entourage éventuellement et nos hommes aussi? Puisque c'est une déferlante d'haine masculine, en l'occurrence, qui s'est portée sur elle.
Et si je peux me permettre, j'ai fait de la bêtise, moi, tout à l'heure, pour préparer cette interview et ce principe-là. Enfin, ce sujet-là, voilà, je vais y arriver. De lire donc, les articles où il disait que Zakia Katabi s'était retiré après avoir dit « je prends une pause pour les vacances », et s'est complètement retiré de Twitter. J'ai eu la mauvaise idée d'aller lire les commentaires... des gens.
Pas bonne idée.
C'est vraiment pas bonne idée, mais c'est lamentable. Quoi. On se demande dans quel monde on vit. Et donc, je me permettais de répondre là, parce qu'en fait, déjà, en effet, il y avait le nombre d'hommes qui donc, disaient qu'elle retourne dans son pays et dans sa cuisine. Enfin, il y avait un peu ce principe-là. Tu fais OK. Et puis, le nombre de femmes aussi qui se sont énervées par rapport justement au fait qu'elle est une femme. et au fait qu'elle soit d'origine étrangère. C'était violent.
Mais Twitter est extrêmement violent.
Non, là, c'était Facebook. Elle ferait bien de se retirer de Facebook aussi, en fait. Mais donc, comment on fait ? Enfin, je rejoins la question d'Achaïsso. En fait, c'était pour la compléter, si je me suis permise.
Mais on vient parler à des émissions de radio, on en parle autour de nous. Je pense que ça, c'est déjà bien. Essayer de vraiment déconstruire tout ça et d'en parler. Moi, en tant que journaliste, j'ai la chance de pouvoir donner la parole aussi. Donc, c'est quelque chose de très important d'aller donner la parole...
à Zakia Katabi.
Par exemple, et aux femmes qui vivent ça tout le temps.
C'est d'elles qu'on parle.
Donc, ça, c'est... je pense que c'est principalement ça. Après, je vois, c'est vrai qu'on est, fort démunis par rapport à ça. C'est déconstruire le racisme et le sexisme de la société. Ça va encore prendre du temps.
D'un point de vue légal, est-ce qu'il y a des choses qui avancent ? Est-ce que vous faites pression ? Est-ce qu'il y a deux lobbies qui se mettent en place ? Il y a Florence Henault qui avait témoigné il y a quelques années. C'est une des premières journalistes d'ailleurs qui a un peu mis au grand jour le fait qu'elle était cyberharcelée. Récemment, vous avez reçu... Aurélie Mouloa, qui a aussi été cyberharcelée parce qu'elle a défendu la jeune femme qui a fait le test ici sur démasquons nos privilèges. Et puis maintenant, une politicienne. Est-ce qu'il y a des lobbies féministes ?
Il y a eu une présentatrice de la RTBF qui faisait la météo, Céline. Je ne sais plus son nom.
Cécile Djunga aussi, qui a été cyberharcelée de la négrophobie, clairement. Est-ce qu'il y a des lobbies féministes qui se mettent en place pour justement lutter et déjà influencer aussi peut-être les politiques, la justice, qu'il y ait une vraie réglementation sur le cyberharcèlement.
Alors il y a déjà une loi, qui est la loi contre le sexisme dans l'espace public, et a priori Twitter, Facebook, comme on vient de le dire, sont des espaces publics, donc on peut déjà porter plainte pour ça, s'il y a des insultes sexistes qui apparaissent, donc ça c'est important de le dire sur les réseaux sociaux. C'est un espace public.
C'est la victime qui peut porter plainte, oui. Ce n'est pas n'importe qui. Donc c'est pas moi qui lis ça qui vais pouvoir...
Oui, la charge de la preuve repose à la victime, et donc c'est la victime qui doit le faire. Oui. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on est déjà agressé et on doit après collecter des preuves, penser à faire des print screens, à rentrer dans un commissariat. De nouveau, on n'est pas tout armé pareil pour faire tout ça. C'est pas le plus simple, mais c'est important aussi de dire que ça existe. Donc c'est déjà légalement interdit. Et puis les féministes, elles travaillent effectivement sur le harcèlement et sur le cyberharcèlement. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps parce que c'est vraiment une thématique super super répandue et super problématique. Donc il y a effectivement tout un travail féministe autour du harcèlement, et le cyberharcèlement n'est que le harcèlement dans l'espace public, mais dans l'espace internet. Donc c'est une transcription de ce qui se passe dans l'espace public partout autour de nous, aussi sur les réseaux sociaux.
Parce que là, en fait, on parle en plus de personnes qui sont quand même médiatisées, donc on peut se dire qu'elles attirent problème de soleil chaud. qu'elles attirent ce genre de réflexion. Mais donc, nous, en tant que qui dame, on est encore moins outillés, en fait, et ça se voit pas. C'est encore moins visible. Et donc, n'importe qui peut aller porter plainte. On peut aller dans un commissariat. Bonjour, je suis cyberharcelée.
Oui.
Il y a quand même une limite. Enfin, il faut un minimum d'harcèlement.
C'est une bonne question. Il faudrait voir avec une avocate ou un avocat.
Oui, parce que toi, si maintenant on dit salope, je sais pas quoi, salope va sucer des bites.
Je sais que ça suffit pour la loi pour l'espace public. Donc dans la rue, si on a filmé une insulte salope, on peut aller. Donc oui, il faut filmer ou il faut des témoins. Puisque la charge de la preuve repose sur la victime, c'est à nous, quand on va au commissariat, d'avoir les preuves. Donc on doit... Oui, cette loi, elle est pas simple. Hein. On doit, alors qu'on est agressé, penser à sortir son GSM, sachant que ça peut entraîner d'autres violences. Voilà, c'est pas simple.
Femme, achetez des GoPro.
Voilà.
Et baladez-vous dans la rue avec votre GoPro. Non, on peut être obligé de l'avoir sur la tête, de toute façon. On va sortir une nouvelle mode, la GoPro.
Mais puis, au-delà de ça, il faut aussi que les forces de l'ordre soient formées à recevoir ce genre de plaintes.
Oui,
donc à ne pas minimiser, à ne pas balayer d'un revers de main, à ne pas essayer de décourager aussi, je pense.
Oui, et ça, c'est encore tout un travail. Et les féministes aussi travaillent fort là-dessus. Donc c'est la formation du personnel en première ligne, on dit. Donc les médecins, les infirmières, et puis effectivement les policiers, les policières qui reçoivent les femmes qui viennent porter plainte. Mais ça, c'est pour tout. Il y a aussi pour le viol, il faut aussi... Parce que parfois, il y a une étude de Vie féminine qui a montré ça, qu'il y avait des remarques parfois des policiers ou des policières qui recevaient des femmes qui étaient très, très violentes. Et sur le harcèlement dans l'espace public aussi, comme c'est une loi qui est très jeune, parfois il y a des policiers même qui disent on peut pas porter plainte contre ça. Et donc il faut faire plusieurs commissariats pour trouver un policier qui est au courant en fait que cette loi existe. Donc oui, c'est très grave, la loi n'est pas appliquée d'une manière uniforme partout et donc ouais.
Et par la même occasion, parce que là on parle des femmes, mais aussi tout l'LGBTQIA+, où là aussi en fait il y a la Rainbow House ou telle quelle qui font des formations justement dans auprès des policiers, des pompiers, des structures d'accueil pour justement aussi accueillir. Donc comme pour les femmes en fait, les LGBT sans poser de questions, enfin sans balayer aussi d'un revers et puis donner aussi poser des questions qui sont juste déplacées quand on a par exemple tout le public trans.
Et tout passera par l'éducation et par l'information et la formation, vraiment.
Je vous invite juste à... C'est le premier interview que j'ai fait, en fait, la Rainbow House. Donc, on imprime un petit magazine papier sur notre stand culte. Et du coup, c'est Ruth, plutôt, je crois, de la Rainbow House, avec laquelle on a parlé de ça. Ouais, avec des choses étonnantes aussi, évidemment, qu'on ne sait pas nous-mêmes, mais il y a un petit Larsen ou un truc. Comme... on m'entend ? Ouais ? Allez. Comme le fait qu'on peut subir une insulte, une agression LGBT-phobe, hein, je reprends ces termes, sans le savoir, en fait, même, je veux dire, légalement, si on se fait agresser et traiter de PD et casser la gueule, un truc comme ça, alors qu'on est hétéro, en fait, on est aussi victime d'une agression LGBT-phobe. C'est aussi reconnu comme ça. Bon, ça, c'est pas évident.
Et en ce sens, d'ailleurs, le festival est bien fait puisqu'il y a des tentes de Sacha un peu partout et je pense que c'est aussi une première.
Non, Esperanza, je pense que c'était aussi l'année passée déjà. Ouais. Mais maintenant, il y a eu Dour aussi, donc il y a plusieurs festivals qui s'emparent de ce plan.
Sacha a 2 ans.
Oui, voilà.
Enfin, c'est la deuxième année de Sacha. Sacha a 1 an, en fait.
C'est assez novateur, donc c'est génial.
Mesdames, vous n'avez plus de questions pour Camille ? Vous n'avez plus de questions pour Camille.
Plus de questions pour Camille, merci beaucoup.
Merci.
De nous avoir rejoints, d'avoir répondu, et puis désolé pour le retard.
Pas de problème.
Axel Mag, on vous trouve où ? Attends, juste Axel Magazine, on vous trouve où ?
Dans plusieurs librairies, il faut aller voir sur le site Axel Magazine, il y a nos points de vente, et on peut aussi s'abonner, c'est plus pratique, voilà, de le recevoir directement chez soi.
Et elle parlait de publications web, tout ça.
Oui, sur le site, on a un site web, Axel Magazine. Et donc, on trouve nos articles aussi dessus.
Et si d'aventure, vous n'aviez pas envie d'attendre, on a quelques exemplaires sur le stand culte, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir faire un tour. Vous pourrez lire tout ça. Je voulais en profiter aussi pour remercier Raphaël, qui est déjà parti, mais qui s'est prêté très, très gentiment à ce jeu de la boîte. Donc, merci à lui. Et puis, on va peut-être se faire une petite pause musicale avant de poursuivre tous ensemble.